23h, Ève Roger sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur Europe 1. Je suis ravie de vous accueillir dans cette émission pour partager vos récits de vie, accompagnés jusqu'à 16h par ma nouvelle camarade Johanna. Bonjour Johanna et bienvenue
bonjour
parmi nous.
Bonjour Ève, merci.
Alors cette heure c'est la vôtre, on va parler pendant une heure des préjugés, de ces idées toutes faites sur ce qui ne nous ressemble pas. Contrairement aux stéréotypes qui sont parfois sympathiques, un exemple, les pompiers sont beaux et musclés, ça c'est un stéréotype, les préjugés sont forcément négatifs, des jugements souvent simplistes, réducteurs et stigmatisants. Il suffit d'apercevoir les traits d'un visage, une posture, un look ou même d'entendre un accent pour qu'en un millième de seconde, notre cerveau étiquette, catalogue et surtout juge. Un t-shirt du PSG, voilà un fouteux inculte, un décolleté et des cheveux blonds, une femme superficielle. Alors, si on trimballe tous des préjugés dans notre besace, certains sont plus dangereux que d'autres, les préjugés racistes et homophobes bien sûr, ceux-là sont source de violence et de discrimination. Alors d'où viennent ces sales petites bêtes? De notre éducation bien sûr, mais aussi de notre environnement. Ils ont pour fonction de nous donner le sentiment d'appartenir à un groupe et de nous rassurer. Si les blondes sont bêtes, la brune que je suis l'est peut-être un peu moins. Alors comment naissent les préjugés? Comment s'en défaire? C'est le sujet de notre émission cet après-midi sur Europe 1. On va en parler ensemble pendant une heure. Nous attendons avec impatience vos témoignages. Racontez-nous les fausses idées que l'on plaque sur vous. Nous sommes là pour vous écouter.
Et oui, et pour joindre Ève Roger, appelez au standard d'Europe 1, c'est le charmant Benjamin qui est là pour vous accueillir au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, ou laissez-nous un message sur Twitter avec le hashtag Europe 1, ou bien sûr sur la page Facebook de l'émission, partageant nos expériences de vie.
Europe 1, 15h-16h, partagez vos expériences de vie avec Ève Roger.
Mademoiselle, s'il vous plaît, vous êtes en retard.
Mais ça va, je suis arrivée avec 5 minutes de retard, pourquoi vous vous acharnez sur moi comme ça là?
Ah voilà le complexe de persécution qui pointe. Typique.
Typique.
Quand allez-vous vous débarrasser de votre accoutrement de banlieusarde informe?
Vous savez quoi? Je vous aime pas.
Non mais vous croyez quoi? Qu'on n'est pas jugé sur son apparence? Que la manière dont on se présente au monde n'a pas d'importance? L'éloquence, la rhétorique, c'est précisément ça que je veux vous apprendre. Avoir raison. La vérité, on s'en fout.
Ouais, c'est bien ça.
Et on vient d'entendre un extrait du film Le Brio avec Camélia Jordana et Daniel Auteuil. Camélia Jordana qui rêve de devenir avocate et qui subit les provocations éternelles de son professeur.
Alors nous sommes maintenant avec Camille. Bonjour Camille, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour, bonjour, merci, comment allez-vous?
Ça va très bien. Alors quel âge avez-vous merci. Camille et d'où nous appelez-vous?
Alors moi je vous appelle, j'ai 31 ans, je vous appelle en direct du lieu où je passe un agréable week-end, là chez ma sœur, Aix-en-Othe dans l'Aube, le 10.
Ok, alors Camille, je vous laisse parler un peu pour qu'on comprenne pourquoi vous appelez dans cette émission sur les préjugés. Dites-moi, quelles études vous avez suivies et ce que vous faites dans la vie?
Alors, moi, j'ai fait des études en espace vert, effectivement. J'ai fait un BEP, un bac pro, un BTS, ainsi qu'une école d'ingénieur sur Lille.
Oui.
Et actuellement, aujourd'hui, en poste responsable dans un service espace vert pour une grande entreprise de la région parisienne.
Donc, on l'entend un peu, vous venez du Pas-de-Calais et vous avez un peu l'accent ch'ti. Mais j'ai l'impression que vous êtes en train un peu de le réprimer. Alors,
Je ne sais pas après.
Ah voilà, ça y est, on commence à l'entendre. Quels sont, oui, Camille, oui, les principaux préjugés auxquels vous êtes confrontés avec votre accent du Nord?
Alors, c'est vrai que c'est des fois un petit peu, quand on est en soirée ou avec des amis, pas forcément avec les gens que l'on connaît, mais les amis des amis, si vous voulez, ils disent « Ah bah ouais, toi, t'es du Pas-de-Calais, t'es du 6-2, ah bah vous, de toute manière, on a connu les fameuses banderoles il y a quelques années, là, un peu les gens un peu consanguins, un peu simples, un peu faciles, voilà. » C'est souvent des choses comme ça. Mais
c'était
bon,
des banderoles qu'il y avait dans un stade de foot, hein, c'est ça. On disait
exactement,
que les gens du Nord étaient consanguins.
Oui, il y avait ça, exactement. Et puis, ça peut être aussi un autre exemple, qui celui-là est un peu plus souvent, mais qui tourne toujours souvent sous la rigolade. On appelle, chez nous, dans le Pas-de-Calais, des fois, on fait des ducasses dans des villages.
Oui, c'est comme des carnavals.
Alors, ducasse, c'est une petite fête locale dans un village. Et bon, moi, je suis célibataire et je suis faux jumeau avec ma sœur Mélanie.
Ouais.
Alors, on a un certain degré de ressemblance, mais bon, je suis un garçon et c'est une fille, donc on est souvent ensemble. Et les gens nous disent « Ah bah tiens, c'est ta copine, c'est ta femme, machin. » Je dis « Non, c'est ma sœur. »« Ah bah, de toute manière, c'est pareil. Chez vous, là-haut, la consanguinité,
c'est
un peu ça, quoi. »
Tout le monde véhicule ces préjugés-là. Et qu'est-ce que vous répondez dans ces cas-là?
Ah ben moi après j'enfonce le clou des fois parce que ça me fait bien rire et puis on tourne ça à la rigolade avec les copains, les amis, on boit un verre et puis c'est parti quoi.
Ça vous blesse pas du tout?
Moi personnellement pas du tout. Ouais. Non là-dessus là, vraiment ça me dépasse, ça me surpasse même.
Alors il y a ce cliché de la consanguinité, il y a aussi l'alcoolisme un peu aussi.
Oui, peut-être un peu moins que l'alcoolisme. De toute manière, je vais vous dire, bon, moi, je suis un ch'ti, je suis un boyau rouge, puisque dans le 62, on est des boyaux rouges, comme on dit.
Oui, ça veut dire quoi
un boyau rouge, je sais même pas trop bien vous dire l'origine de ce truc-là. Je crois que c'était à l'époque, les mineurs de fond avaient descendu avec la silicose, avec les poussières de charbon, et ça faisait une réaction au niveau du corps, et quand il crachait, ça crachait rouge. Enfin bref, c'est un peu l'anecdote pas très fleurie.
Et donc vous me dites ça parce que vous me dites que vous buvez un peu d'alcool aussi?
Alors quand on boit de l'alcool, quand on fait la fête, quoi, on boit un verre entre les copains, mais ça s'arrête là tout simplement. Maintenant, c'est fini, on ne peut plus. Quoi.
Et on dit aussi des gens du Nord, où on véhicule ce cliché, que les gens du Nord sont un peu bébêtes aussi, un tout petit peu altérés intellectuellement.
Oui, peut-être.
Vous avez des termes pour ça, non?
Bah un peu, ah oui, les termes, on dit, oh bah celui-là, alors moi vous voyez, j'ai fait mes études près de Coulogne, près de Calais, donc il y a différents patois hein, dans le même département du 62, il y a le patois des mines, il y a le patois de l'Artois, il y a le patois de la Côte d'Opale, etc. Ouais. Là on disait un terme pour décrire les gens un peu simplés, on dit, bah si t'es un babage, ou une bobourse, ou des trucs comme ça, ou c'est ce que Danny Boone
l'avait
un petit peu mis en exergue dans son film.
Il se trouve que Camille, vous habitez à Paris, donc est-ce que
moi j'habite à Arras, mais je travaille à Paris.
D'accord.
Donc quand je vais à Paris, on me dit tiens, v'là le paysan, v'là le cutéreux. Et quand je suis à Paris et quand je suis à Arras, ou en fait local chez nous dans le département, on me dit tiens, v'là le parisien, alors que j'y travaille seulement.
Oui, mais alors vous êtes. Est-ce que cet accent, est-ce que vous essayez des fois de le perdre, en tout cas quand vous êtes à Paris ou avec des gens comme ça qui sont un peu désagréables, ou est-ce qu'au contraire vous l'exagérez?
Alors, pour être honnête avec vous, c'est quelque chose que je ne fais pas forcément attention.
Ouais.
Je vais vous dire, par exemple, quand je suis en rayon de chantier, des fois avec des entreprises, avec la maîtrise d'œuvre, des fois il peut y avoir des moments un peu plus tendus, compliqués. Naturellement, mon accent du 62 revient, l'accent ch'ti revient, dans certaines intonations ou dans certains mots.
Ouais.
Ça, j'arrive pas à le contrôler. Hein.
Et parfois,
c'est
vous l'exagérez.
C'est avec un peu l'énervement, quoi.
Et parfois, alors, montrez-nous comment vous faites pour l'exagérer des fois.
Ah ben bah, ici, si je dis que ça va pas, c'est que ça va pas. Hein.
Donc,
on appuie sur les cheux, les A, les O. Enfin, bref.
Donc d'une certaine façon, cet accent qui véhicule quand même beaucoup de clichés, c'est aussi une façon pour vous d'entrer en contact avec les autres, les faire rire et d'avoir une forme d'amitié.
C'est impressionnant parce que c'est un retour qu'on m'a déjà fait régulier. C'est que moi, c'est vrai que j'aime bien discuter avec les gens, je suis assez ouvert d'esprit, enfin voilà. Et des fois, quand on parle un peu, vous voyez, là, je suis dans l'Aube, ils ont un accent qui est particulier. Ce matin, j'étais au pain, je discutais avec le boulanger, il me disait, tiens, t'en vlog, Annie, Arvlad 6-2. Je dis, tu vois, on fait le mélange, moi, j'amène mon accent, toi, tu amènes le tien, et puis on passe un moment, on discute, enfin voilà, quoi.
Enfin, c'est sympa. C'est vrai que c'est est-ce que vous avez des préjugés, vous serez Marseillais, par exemple?
Bon, non, si ce n'est que... Non, pas du tout, si ce n'est que c'est quand même des fervents supporters de l'OM.
Ça c'est encore le foot. On y revient.
Moi, j'aime plutôt Lens.
Oui.
Mais vous voyez, je suis du Pas-de-Calais, j'ai mon petit frère Henri. Lui, c'est un fervent supporter de l'OM, comme un de mes cousins d'ailleurs, François.
Ouais.
C'est l'OM j'ai un autre cousin.
Vous n'êtes pas sectaire en matière de football, quoi. Mais Camille, on va rester avec vous. Merci beaucoup de nous avoir fait partager votre expérience. On serait bien resté bien plus longtemps avec vous, avec ce joli accent. Dans quelques instants, nous serons en ligne avec Idir, qui est algérien et en France depuis 7 ans, et il a beaucoup à dire.
Europe 1.
Peut-être avez-vous également souffert de préjugés dans le travail ou dans la vie courante? Ève Roger vous écoute avec bienveillance jusqu'à 16h sur Europe 1. Pour la joindre et raconter votre histoire, appelez notre standard au 3921, 50 centimes d'euros la minute. N'hésitez pas à nous laisser également des messages écrits, on vous lit sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Ève Roger sur Europe 1.
Intermarché vous propose d'écouter 1,95€.
Je ne bavarderai plus en classe.
Bilal Hassani, qui a représenté la France au concours de l'Eurovision avec sa chanson « Roi » et qui a malheureusement subi des critiques violentes et homophobes sur la toile.
Nous sommes maintenant en ligne avec Idir. Bonjour Idir.
Bonjour.
Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Alors, vous nous appelez d'Algérie où vous êtes en vacances. Quel âge avez-vous, Idir, et d'où nous appelez-vous ? Ah ben, je sais, je viens de le
Alors,
dire.
Alors, je vous appelle de Tizi Ouzou. J'ai 31 ans. Et oui. Je suis arrivé il y a 3 jours pour passer les fêtes de l'Aïd et quelques jours de vacances avec mes parents, mais j'habite à Paris. Je travaille à Paris.
Alors, je dis à nos auditeurs qu'il y a un tout petit décalage parce que justement, vous êtes en Algérie. Vous êtes arrivé en France, je l'ai dit, pour terminer vos études il y a 7 ans. Et vous avez tout de suite été confronté à des préjugés, c'est ça ? Lesquels, hein ? Est-ce que vous pouvez nous les dire lesquels ?
Alors, il y en a plusieurs, mais celui qui colle le plus, c'est celui, entre parenthèses, l'arabe qui est voleur. Par exemple, il y a une anecdote avec mes collègues au bureau, par exemple, pour faire une blague, pour rigoler tous ensemble, il y a quelqu'un qui, par exemple, cache un téléphone portable d'un autre collègue, et juste pour lui faire dire que, en fait, tu fais pas attention à tes affaires et tout. Et quand on lui rend le téléphone, on rigole, on lui dit attends, fais attention, tu fais pas attention à tes affaires, surtout qu'il y a un arabe ici.
Ah oui.
Donc, moi, sur le champ, je sais que c'est peut-être c'est pas voulu ce qu'ils disent, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de reproduire des préjugés, même si c'est des collègues et c'est des amis en quelque sorte. En général, je dis rien, mais des fois, je perds patience parce que ça se répète, et je ne suis pas un voleur, et faire ce genre de blague pourrie. Pour moi, ça passe pas.
Alors, est-ce que vous avez été surpris la première fois quand vous l'avez entendu ce préjugé, même si c'était sous forme de humoristique ?
Alors, au début, je voulais essayer de comprendre. Après, voilà, il me raconte en fait, voilà, il y a ce préjugé-là parce que. Je sais pas, c'est pas fondé à mon sens, mais évidemment, j'essaie de comprendre. Mm-hmm. En fait,
Alors, il y a d'autres, d'autres préjugés qui vous collent à la peau ? Par exemple, je sais pas moi, peut-être machiste, misogyne, est-ce que ça revient ?
Oui, par exemple, moi, ma copine est américaine, ça c'est un. Et donc, c'est un autre préjugé, mais ça se rapproche un petit peu. Quand on est en soirée avec des amis, on nous pose la question, ah, c'est quoi cet accent ? C'est un accent, parce que ma copine, elle est américaine, mais elle parle français.
Oui.
Et donc, quand on parle français, on dit, toi, tu deviens, et toi aussi, on dit, je suis américain, moi, je suis algérien. Ah, comment ça se fait, un Algérien et une Américaine ? Mais comment comment vous êtes rencontrés ? Comment ça se fait, une Californienne et un Algérien ? Mais c'est quoi ça ? C'est comme si directement, je pense que c'est le préjugé machiste qui sort. Comment le pays de démocratie comme les États-Unis, et un pays, c'est ça les préjugés qui sont derrière, et un pays algérien comme, je sais pas, c'est où le machisme est très répandu, comment ça peut matcher entre vous ? Je dis, mais attends. On rigole pas avec ça. En fait, c'est ma copine qui se met plus en colère que moi.
Ouais. Et justement, votre copine, elle avait des préjugés sur les Algériens ? Votre copine américaine, elle avait des préjugés ?
Non. Je pense que c'est pour ça que ça a marché entre nous, parce qu'elle, au début, elle connaissait même pas ce qu'elle est l'Algérie. Et elle connaissait le Maroc, mais...
Ah, c'est bien.
Mais j'espère qu'elle m'entend pas. En fait, justement, c'est comme si c'est une page vierge. Qu'on s'écrit l'un l'autre dans la tête. Donc, elle découvre ma famille, elle vient en Algérie, elle découvre la culture, elle découvre la beauté des paysages, la cuisine. Et donc, elle est partie sur ces bases-là, sur la vraie image de l'Algérie, en fait.
C'est ça, elle est vierge de tout préjugé. Et vous avez le sentiment que... Quel est le profil des gens qui ont le plus de préjugés envers vous ? Est-ce que c'est les gens proches ou un second cercle, comme disait tout à l'heure Camille ? Ou est-ce que c'est les étrangers, enfin ceux que vous ne connaissez pas du tout ?
Oui, les étrangers, ils ne se permettent pas devant nous par respect, ou peut-être ils vont dire que peut-être on ne va pas heurter sa sensibilité. Mais les gens qui sont proches, ils croient que. Ils se permettent ça parce qu'ils me connaissent, en fait. Donc, des amis, des fois, ils me taquinent. Mais je leur dis, voilà, vous me taquinez. Mais en réalité, je leur fais comprendre, attention, hein, ça, vous êtes en train de perpétuer un préjugé. Hein, donc. J'essaie aussi de ne pas prendre tout au sérieux, mais tout en délicatesse, leur faire comprendre que voilà, il faut pas non plus exagérer. Voilà.
Idir, j'ai une dernière question pour vous. Est-ce que c'est pire depuis les attentats, avec ce préjugé aussi de violence terroriste auprès des Algériens et des Maghrébins en général?
Oui, à chaque fois qu'il y a un attentat, moi, je vais à Paris, je vais en France depuis 7 ans. À chaque fois, il y a un attentat, on se sent terrible, mais terrible. Parce qu'on sait que les regards changent vis-à-vis de nous. Alors que nous avons souffert de terrorisme pendant plus d'une décennie en Algérie. Par exemple, là, à la ville où j'habite, où mes parents habitent, quand j'étais au collège, j'arrive à l'école, les gens me racontent qu'ils ont rencontré des gens qui ont été assassinés le matin. Donc moi, j'étais traumatisé déjà par ça. Chaque fois, il y a un attentat, tous ces souvenirs remontent dans ma tête. Alors que quand je pense que les gens me regardent, comme quoi il y avait un attentat, comme quoi je dois me justifier, comme quoi je suis... là, c'est terrible, vraiment, c'est terrible.
Et c'est réactivé à chaque fois.
Il y a quelque chose que je voudrais ajouter, je ne sais
oui.
pas si vous...
Ah, Idir, on vous entend. Allez-y.
C'est un lien avec les préjugés, c'est plutôt avec le drapeau algérien. Donc, par exemple, la dernière finale de la CAN, moi, j'ai été agressé physiquement, donc avec une bouteille à la tête, par des gens apparemment de l'extrême droite, parce qu'avec les insultes racistes qu'ils ont proférées à mon égard, je pense qu'ils sont de cette couleur politique-là. Et donc, parce que ils savent pas que je suis un Algérien, ils savent pas, je suis passé, je rentrais chez moi, et ils m'appellent, monsieur, je refuse de répondre, à un certain moment, ils insistent, je regarde, ils étaient 8, et l'un d'eux me porte un coup à la tête.
Donc ça veut dire que ce qu'on peut dire, Idir, pour conclure, parce qu'on vous entend assez mal, c'est que du préjugé, on peut très vite arriver à la violence et à une forme aussi de discrimination. Merci beaucoup, Idir, à nous avoir fait partager votre expérience depuis l'Algérie. Nous serons dans quelques instants en ligne avec Fatma Bouvet de la Maisonneuve. Elle est psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne à Paris et autrice du livre « Une arabe en France, une vie au-delà des préjugés » aux éditions Odile Jacob.
Europe 1.
Et oui, les opinions préconçues font souffrir, qu'elles soient racistes, sexistes ou même sur l'âge. Vous pouvez nous raconter votre histoire. N'hésitez pas à appeler le standard d'Europe 1 au 3921. Vous pouvez également nous laisser un petit message sur la page Facebook de l'émission partageant nos expériences de vie. Et l'émission se poursuit jusqu'à 16h.
Ève Roger sur Europe 1.
Aux paysans, le temps qu'il fera demain. À la campagne, on veut de l'authentique, du feu de cheminée et du produit régional. À la campagne, il nous faut du rustique, un meuble qui n'est pas en bois, ça nous ruine le moral. À la campagne.
Il dénonce les stéréotypes français liés à la ruralité. C'était le poète Benabar avec le titre À la campagne.
Alors je m'adresse à vous maintenant, Fatma Bouvet de la Maisonneuve. Vous êtes notre invitée. Vous êtes psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, autrice du livre Une arabe en France, une vie au-delà des préjugés aux éditions Edith Jacob. Bonjour et bienvenue sur Europe 1.
Bonjour, merci de votre invitation.
Alors pour commencer, je ne peux pas ne pas vous poser la question sur votre nom. Vous vous appelez Fatma Bouvet de la Maisonneuve. C'est à lui seul une arme anti-préjugés parce que votre prénom et votre nom véhiculent des préjugés opposés. C'est étonnant.
Oui, tout à fait. Mais c'est par un petit peu par résistance justement et par militantisme anti-préjugés puisque à l'époque où j'avais choisi mon mari français, les maghrébines se mariaient rarement avec des Français.
Ouais.
Et donc j'ai eu un certain nombre de remarques, ouais, et de résistances. Et puis en France, on n'imaginait pas du tout qu'une Fatma, parce, ouais, que vous savez que très souvent maintenant, enfin encore, je dirais, on emploie ce prénom comme un nom commun, puisse s'attribuer ou en tout cas prendre le nom d'un mari, un nom à particules, mmh, aristocratique. Donc voilà, j'ai commis une double résistance et c'est vrai que ça interpelle pas mal.
Sans doute qu'on doit souvent vous poser la question.
D'ailleurs, oui, très, très souvent.
On va parler de vous et de votre histoire. D'abord, votre livre Une Arabe en France et cette tordre le cou justement aux préjugés de part et d'autre de la Méditerranée. On vient d'entendre y dire. Hein. Et vous, Fatma Bouvet de la Maisonneuve, de quels préjugés avez-vous été victime quand vous êtes arrivée en France il y a 20 ans?
Moi, j'avais beaucoup de préjugés sur la France.
Oui.
Moi, j'ai grandi avec une culture francophone, dans une culture francophone et francophile. Je connaissais tout ce qui relevait de la culture, de la littérature, des lumières. En France, je regardais la télévision avec évidemment des images très positives et donc je pensais arriver dans un pays où tout le monde serait Montesquieu, Rousseau. Et en réalité, je me suis rendu compte que la France et les Français étaient des humains comme les autres, qui pouvaient arriver en retard aux réunions, qu'il y avait des lenteurs administratives, que tout le monde connaissait pas l'IS, voilà.
Alors, ça ne s'appelait pas exactement des... Ça, c'était des préjugés favorables, alors ce n'était pas négatif.
Absolument, oui, oui, tout à fait. Mais vous savez, dans le Sud, on nous transmet plutôt des idées extrêmement positives sur le Nord. Donc, ouais, moi, j'arrivais plutôt avec des préjugés très positifs, mais il n'en reste pas moins que je ne suis absolument pas déçue. Hein, ça n'est pas du tout la question, mais j'ai appris à connaître... Je pense que chaque culture, j'ai trouvé des deux premiers témoignages vraiment super intéressants, dans la mesure où ils expliquaient qu'il y avait forcément des clés à trouver pour se comprendre. Mmh. Et eux-mêmes ont mis en pratique ce dialogue et cette nécessité de comprendre l'autre.
Oui.
Simplement, je tiens quand même, en tant que médecin et en tant que psychiatre, parce que c'est aussi... C'était aussi le but de ce livre, c'est de dire à quel point ça entraînait des souffrances, d'énormes souffrances. Je pense que ces préjugés entretiennent une sorte de piètre image de soi, si on l'a déjà, et qui crée une souffrance terrible.
À titre individuel, vous dites à chaque fois,
oui. Ah oui.
Quand on entend
y
dire, on entend la souffrance d'y dire.
Complètement, mais moi, oui, je pense que votre premier témoin également, parce que vous savez, l'humour est souvent une arme... Oui. Anti-tristesse et l'histoire de la consanguinité. Moi, j'aime beaucoup le foot et donc je me souviens très très bien de l'affaire des banderoles.
Ouais, ouais.
Elle n'a pas fait rire, hein, les gens du Nord. Et je suis par ailleurs addictologue et je connais bien les préjugés sur les gens du Nord, l'alcool, la consanguinité.
Ouais.
Je peux vous dire que ça ne fait pas rire tout le monde.
Mmh.
Donc c'est bien d'avoir des défenses humoristiques, mais je pense que moi, ce que je conseille en général dans ces cas-là, c'est d'essayer d'expliquer ce que l'on est, c'est-à-dire d'établir un dialogue et de sortir de cette certitude, oui, que l'autre a face à vous.
Et est-ce que vous pouvez nous dire, avant qu'on voit comment on arrive à s'en défaire, comment ils naissent, ces préjugés-là? Parce que peut-être que j'ai tort, mais peut-être, est-ce que certains n'ont pas une part de vrai? Est-ce que ça naît aussi de quelque chose de réel?
Il y a évidemment, nous ne nous ressemblons pas tous. Mmh. Nous avons, je parle de cultures différentes.
Mmh.
Je pense que les cultures sont différentes, mais qu'il n'y a pas de hiérarchisation,
oui,
de la culture à faire, des cultures à faire. Je voudrais quand même rajouter par rapport à ce que disait Idir tout à l'heure, et c'est que il y a très très peu d'occidentaux, on va dire, de gens du Nord qui savent que dans le Maghreb il y a des fondements intellectuels. Il y a des idées de la pensée, des écrivains. Saint-Augustin vient du Maghreb. Très peu le savent. Et donc, il y a cette espèce de hiérarchisation dont les gens du Sud eux-mêmes finissent par se convaincre que nous serions moins intelligents ou moins performants, etc. Et donc... La part de réalité dont vous parlez, elle est certainement par rapport à certains caractères, je dirais les gens du Sud, effectivement, sont faciles de contact, sont peut-être, la plupart d'entre eux, plus expansifs. Mais encore que, on me dira que quand on va à un carnaval dans le Nord, oui. On s'éclate 10 fois plus.
Non, c'est vrai que c'est donc la généralité qui fait le préjugé, en fait. C'est quand on essaie de généraliser des caractères.
Oui, mais je pense que c'est vraiment mortifère et c'est ce qui nous paralyse les uns les autres, chacun dans son pré-carré. Moi, en tout cas, mon métier, essentiellement, m'a appris à me méfier des généralisations que je trouve vraiment mortifères.
Et quels sont pour vous les préjugés qui font le plus de dégâts? Est-ce que c'est vraiment les préjugés racistes, homophobes?
Oui,
c'est ceux-là qui font le plus de dégâts?
Oui. Aujourd'hui, oui. Mmh. Aujourd'hui, véritablement, oui. Et puis sexistes. Vous avez très bien fait de poser la question sur le terrorisme. Aujourd'hui, être arabe, en tout cas avoir un faciès supposé arabe ou musulman est très
stigmatisant.
Stigmatisant. L'homophobie, évidemment, est meurtrière, on le sait. Une femme, paradoxalement, une femme belle, intelligente et performante est souvent
discriminée. C'est ce que vous disiez, ce qui est assez étonnant d'ailleurs. Mais on en parlera. Restez avec nous, Fatma Bouvet de la Maisonneuve. Je rappelle, vous êtes psychiatre, auteur de Une Arabe en France. On va rester avec vous. On a hâte de savoir comment on peut se défaire de tous ces préjugés. Dans quelques instants, nous allons accueillir Michael. Lui est garde forestier. Il nous racontera comment il a souffert de préjugés pendant ses études. Il est passé par la filière pro.
Europe 1.
Vous aussi, vous avez affronté des préjugés. Les sportifs sont complètement idiots, les tatoués sont violents, les enseignants sont des fainéants. Appelez-nous pour nous dire les obstacles que vous avez dû franchir. Composez le 3921, c'est Benjamin qui vous accueille au standard. Et posez-nous toutes vos questions, c'est le moment, sur Facebook, sur la page de l'émission, partageant nos expériences de vie avec Ève Roger.
Ce qui m'a sauvée, c'est mon équipe de natation synchronisée masculine. Assez prometteuse, je dois dire.
Championnat du monde. C'est un fantasme.
Qui est pour? Allez, c'est bon.
Qu'est-ce que j'écris, là?
Équipe de France.
Et pourquoi pas les hommes dauphins?
Non.
On va chercher la fille qui est en nous.
Moi, il n'y a pas de fille en moi.
Bien sûr que si, abruti. Hein. T'en perdras pas tes trucs pour autant. Au contraire, t'en gagneras peut-être un peu.
Et Gilles Lelouch n'en a eu aucun préjugé, lui, lorsqu'il a réuni une équipe de nageurs de choc sur le tournage du film Le Grand Bain. C'était pas gagné.
Eh oui, pour faire la natation synchronisée, c'est assez drôle. Alors, nous sommes en ligne maintenant avec Michael. Bonjour Michael et bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour Ève, merci à vous.
Alors, quel âge avez-vous Michael et d'où nous appelez-vous?
Alors, j'ai 23 ans et je vous appelle d'Aigleton en Corrèze.
Michael, vous êtes garde forestier donc et vous avez souffert de préjugés tout au long de vos études. Et ça a commencé quand vous avez quitté le collège et que vous êtes rentré dans une école des métiers de la nature et de la forêt. Alors, dites-nous pourquoi.
Exactement. Alors, en fait, j'ai quitté mon collège où j'étais jusqu'en 4e pour me réorienter vers une maison familiale et rurale, en effet.
Qui est cette école
et, voilà, qui est cette école des métiers de la nature. Et en fait, ces écoles au cursus professionnel souffrent un petit peu d'un mauvais visage, d'un visage d'une seconde zone, un petit peu d'une école de seconde zone où c'est le genre d'école où vous allez puisque vous n'êtes pas assez bon pour réussir dans le système scolaire classique.
Mais qui pense ça? Vos parents? Vos amis?
Plutôt le corps enseignant qui a tendance à vous diriger vers ce genre d'établissement en disant bah, vous allez apprendre quelque chose de concret, ce sera au moins, vous n'allez pas perdre votre temps. Mmh. Et puis un petit peu le ressentiment également de vos camarades de classe qui, oui, vous disent, mais tu vas faire un brevet en troisième technologique parce que tu n'es pas assez bon pour faire comme tout le monde, avoir un brevet, entre guillemets, normal. Parce que d'ailleurs, qui fixe la normalité? À quel moment un brevet des collèges obtenu dans un collège est plus normal qu'un brevet technologique?
Et c'est pareil. Exactement. Pour le bac pro. Après, vous avez fait un bac pro. Et vous dites, alors, on voilà, souffre d'un délit de sale gueule parce qu'on est en bac pro.
Exactement, voilà. Alors, c'est-à-dire qu'au moment où vous allez réussir à obtenir, comme moi, mon brevet des collèges, alors ouais. Que le corps enseignant du collège de Saint-Command-Véret, pour ne pas le citer, m'avait un petit peu réorienté pour me permettre de réussir quelque chose, eh bien, vous avez quand même votre brevet technologique, mais on vous dit, oui, mais tu as un brevet technologique. Ouais. Donc, entre guillemets, c'est un peu un brevet au rabais.
C'est ça. Et c'est pareil
et
pour
puis,
le bac.
Donc, on continue dans la lignée du bac professionnel, où on s'investit énormément. Moi, j'ai passé c'était un bac professionnel par alternance, où j'ai fait 112 semaines de stage, travaillé sous la pluie, sous la neige, qu'il fasse 40 degrés. Et puis, vous obtenez votre bac avec mention. Et puis, on te dit, oui, mais c'est un bac pro.
Et c'est qui est ce on, alors, toujours ?
Ce on, c'est plutôt de la part des autres élèves entre soi.
Ouais. Enfin,
De la classe, les premières promotions de BTS, on va te dire, oui, mais toi, t'es arrivé là, mais t'as fait un bac pro, donc c'est...
Quel est le préjugé qui est lié justement à cette filière pro ? Ça veut dire que vous êtes moins bon, vous êtes moins intelligent, c'est ça ?
Voilà, exactement. En gros, je vais peut-être pousser le cliché un peu loin, mais on est quasiment illettré.
Ah, carrément.
En gros, puisque je vais vous donner une petite anecdote assez sympathique. Bon, à l'heure actuelle, elle me fait rigoler, mais c'est vrai que quand j'ai intégré ce BTS, ça m'a pas beaucoup fait rigoler. C'est ma professeure principale qui était professeure d'économie qui, le premier jour, vous savez, on se présente tous, on met un petit pupitre avec notre prénom puisque personne ne se connaît. Et puis, vous décrivez votre parcours. Donc, quand je décris que je viens d'un bac professionnel forêt, à la fin de l'heure de cours, ma professeure principale me prend à part. Elle me dit, mais Mickaël, c'est vous qui avez fait bac pro ? Je dis, oui, bien sûr. Elle me dit, mais vous n'auriez pas besoin de faire du cours de soutien français ? Elle ne m'avait jamais vu écrire, si ce n'est mon prénom. Et à moins que j'ai fait une faute à mon prénom,
c'est
quand même assez
c'est ce qui est possible avec Mickaël.
Voilà, bon, il y a plusieurs orthographes, enfin tout de même. Mais elle m'a dit, mais vous n'auriez pas besoin de faire du cours de soutien français. Elle ne m'avait jamais vu écrire.
Et qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là ? C'est-à-dire que comment vous réagissez ?
On se sent un peu dépité, puisqu'on a déjà obtenu notre brevet, dans lequel on nous a dit « tu vas vers ce brevet puisque t'es moins bon, après tu as obtenu ton bac en te battant, en travaillant extrêmement dur pour ça, en faisant, comme je disais, des heures de travail sous la pluie, sous la neige.
Ouais. »
Donc on a plus envie de se sentir dévalorisé, on a trouvé
c'est
des
ça.
Choses, on a envie d'être pris pour un élève à part entière.
Est-ce que c'est vos parents, ils allaient dans ce sens-là aussi, ou au contraire, ils vous ont soutenu ?
Mes parents m'ont extrêmement soutenu.
Ça, c'est important, j'imagine.
Ma maman est quelqu'un qui croyait extrêmement en nous quatre, ces quatre enfants. Donc, elle nous a extrêmement soutenus. D'ailleurs, c'est elle qui m'a renvoyé vers cette école des métiers de la nature, puisqu'elle m'a dit, mais je vois que tu n'adhères pas non plus à cette philosophie du collège classique. On peut bien comprendre que quand on est 30 élèves dans une même classe, les 30 élèves n'ont pas la même façon d'apprendre les choses.
C'est ça, c'est quand il y a une hiérarchie, là où il y a seulement une différence. Mais Mickaël, je voulais parler de votre métier aujourd'hui. Vous êtes garde forestier, alors il y a des idées reçues aussi sur votre métier d'aujourd'hui ?
Oui, c'est assez mal connu. J'ai souvent des gens qui me disent mais vous comptez les arbres tous les jours ? Non, on ne compte pas les arbres tous les jours. Alors, on a l'image du garde forestier qui se balade, entre guillemets.
Ah oui.
Mais en fait, c'est un métier qui passe énormément par de l'observation. On est dans une phase où le réchauffement climatique a de forte importance et on se doit de comprendre ce que les arbres sont en train de vivre. Et si vous ne passez pas des heures à pied à marcher en forêt, vous ne pouvez pas prendre conscience de ce qui est en train de se passer sous vos yeux. Si vous passez en voiture, vous ne voyez pas ce qui se passe.
Je comprends. Pour moi, le bûcheron, Mickaël, c'est aussi un stéréotype assez positif. Parce que pour moi, c'est un homme assez sexy avec sa chemise à carreaux. C'est vrai ça ou pas ?
Il y en a, je ne me mettrai pas dans cette catégorie-là.
Est-ce que vous avez une chemise à carreaux, Mickaël ?
Je n'ai pas de chemise à carreaux, alors où je vous parle, mais c'est jour férié, on n'a pas le droit de travailler en forêt, donc je ne travaille pas aujourd'hui. Mais oui, il y a une petite partie de préjugés positifs.
C'est ça.
Mais qui intervient, j'ai envie de dire, au moment où vous réussissez le BTS.
Ah.
Puisque une fois que vous réussissez le BTS, vous n'avez plus un diplôme au rabais, puisque vous êtes avec des bacs S,
et
des bacs de filière générale, et le petit bac pro qui, on disait, mais tu sais pas, t'es limite illettré, eh ben, il a un diplôme au même niveau que tout le monde. Donc, on ne peut plus lui dire qu'il a des diplômes au rabais.
En tout cas, on entend, Mickaël, que vous êtes aujourd'hui un homme heureux, malgré ces difficultés. Merci infiniment de nous avoir fait partager votre expérience. D'ailleurs, je signale qu'on peut trouver un très joli portrait de vous dans Le Monde, avec ce titre « Mickaël, passé du fond de la classe au sommet des sapins ». Merci. Dans quelques instants, nous serons avec Maxime. Vous allez l'entendre, lui a vaincu ses préjugés pour aller à la rencontre d'un SDF et il ne l'a pas regretté.
Et vous aussi, vous pouvez réagir à ce qu'il se dit dans l'émission, comme Myriam qui cite Einstein sur Facebook. Il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé.
Europe 1.
Eve Roger vous écoute au 39-21, 50 centimes d'euros la minute. Et n'hésitez pas à nous écrire via Twitter également avec le hashtag Europe 1.
Eve Roger sur Europe 1.
Et voilà. Levez le pied.
C'est l'été sur Europe 1.
Les lasis, les colibets, mêlaient ce froid, puisque c'est vrai, je suis un homme haut, comme ils disent. À l'heure où naît un jour nouveau, je rentre retrouver mon lot de solitude. J'ôte mes cils et mes cheveux comme un pauvre clown malheureux de l'Asie.
C'était le grand Aznavour qui abordait en 1972 le tabou de l'homosexualité sans détour dans le titre culte « J'habite seul ».
Et nous accueillons maintenant Maxime. Bonjour Maxime, bienvenue sur Europe 1.
Bonjour Eve.
Quel âge avez-vous Maxime et d'où nous appelez-vous ?
J'ai 34 ans et je vous appelle des Landes où je suis en vacances.
Alors vous nous appelez pour nous raconter une histoire qui vous est arrivée avec un SDF au mois de juillet à Paris. C'était pendant la canicule et vous avez dû lutter contre vos préjugés pour aller à sa rencontre. Alors racontez-nous ce qui est arrivé.
Oui, en fait, je vis à Paris et cette rencontre a eu lieu lors du jour le plus chaud de la canicule. Donc, il faut se remémorer de me faire, je sais pas, 40 degrés à Londres. Et là, je vois un monsieur pieds nus. Donc, on voit beaucoup de son domicile fixe quand on habite à Paris. Et ce monsieur m'interpelle et me demande 9 euros, ce que j'ai trouvé un peu étrange. Alors, je lui ai demandé pourquoi cette somme exactement. Et là, il m'explique que c'est pour s'acheter un billet de train. Et j'ai tout de suite vu que son comportement n'était pas... habituel, c'est-à-dire qu'il s'exprimait vraiment dans un français très fluide, il n'était pas du tout alcoolisé, il n'était pas, il était conscient de tout ce qui se passait, mais il me demande vraiment ces 9 euros. Et j'ai vraiment failli tourner les talons à ce moment-là en me disant, bon ben voilà, il m'invente cette histoire de billet de train pour ne pas avoir une petite pièce, mais pour avoir plus d'argent. Donc je vous confie à quel point
moi-même... Oui, c'était ça le préjugé. C'est-à-dire que vous pensiez que cet argent, c'était pour acheter de l'alcool ou autre chose ?
Oui, honnêtement, oui, je pensais que c'était ça. Et en fait, j'ai eu ce moment où j'ai tourné les talons et j'ai fait un pivot arrière.
Volte-face.
Et là, je lui ai dit, mais pourquoi c'est 9 euros ? Et là, en fait, il m'explique qu'il revenait de vacances, qu'il s'est fait complètement dépouiller, c'est-à-dire son portefeuille, son téléphone, tout. Et ça fait 2 jours, incapable de joindre ses proches. Et ça fait 2 jours qu'il erre dans les rues de Paris, qu'il ne connaît absolument pas parce que lui, il habitait dans un petit village en Bretagne. Compte tenu de son apparence, finalement, qui était vraiment très, très compliquée, plus personne voulait lui venir en aide. Et il m'expliquait que ça faisait 2 nuits qu'il était devant ce supermarché, que quelqu'un lui avait donné à un moment un bout de pain et c'est tout.
Parce que son apparence, c'était la canicule qui l'avait fait dégénérer, j'allais dire, plus vite qu'à la normale.
Exactement. C'est-à-dire que, par exemple, il était pieds nus. Mais alors, je pose la question, je lui dis, mais pourquoi vous êtes pieds nus ? Et en fait, ses chaussures étaient juste derrière lui. En fait, c'est juste qu'il avait tellement chaud qu'il était pieds nus dans la rue. Et on a commencé à engager une discussion. Et après, on a allé jusqu'au bout. C'est-à-dire que je l'ai aidé à payer son billet de train pour rentrer. Et il a couru vers la gare pour rentrer chez lui. À aucun moment, il m'a demandé des euros pour s'acheter ce qu'on aurait pu croire, voilà ce que vous disiez, de l'alcool, de la drogue ou autre chose. Et il était très content de repartir. Et c'est vrai que ça a été un moment un peu particulier parce que je me suis demandé à ce moment-là pourquoi moi qui suis confronté comme tous les Parisiennes, tous les Parisiens, tous les gens qui habitent dans des grandes villes à des sans domicile fixe, pourquoi on fait souvent rien ? Qu'est-ce que ça réveille en nous pour qu'on n'ait plus ce minimum d'humanité, ce qui nous lie les uns aux autres, cette espèce de sentiment de fraternité, d'être entre êtres humains, de ne pas aller à la rencontre de ces personnes. Je dis bien à la rencontre parce qu'il ne faut pas forcément leur venir en aide. On n'est pas obligé
juste leur parler.
De l'argent. Oui, juste leur parler. Souvent, d'ailleurs, ce monsieur-là voulait vraiment parler. Et il m'a dit, mais personne ne m'a adressé la parole en 2 jours.
Quelqu'un Maxime, juste, est-ce qu'il a été voir des gens ? Il est allé voir la police ?
Alors évidemment, je lui ai posé ces questions. C'est là où son histoire était vraiment hallucinante. Il m'a dit que les policiers avaient pris sa déposition pour vol, mais qu'ils ne pouvaient pas l'héberger. Ils lui ont dit, vous pouvez aller voir une association pour vous héberger. Là, il m'a dit qu'il allait voir une association humanitaire. Il me l'a même montré, qui était tout près de là où j'étais. Et il m'a dit, ces gens-là m'ont aidé. Puis après, ils m'ont dit qu'il fallait que je prie. Ça peut paraître complètement fou. Mais
la prière.
Il a dit. Oui, et puis son discours était très, très cohérent. Après, je ne saurais jamais exactement ce qui s'est passé. Mais ce qui est certain, c'est qu'à aucun moment, je dis bien à aucun moment, et pourtant, je lui ai proposé, il a voulu de l'argent.
Et je crois que même vous avez eu sa mère au téléphone.
Oui, j'ai eu sa mère au téléphone et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que le pauvre, il ne pouvait pas être vraiment aidé parce qu'elle était elle-même très désorientée. Déjà, je pense, par ce qu'elle devait traverser dans la vie, parce que c'était quelqu'un qui avait l'air soit malade, soit qui n'était pas bien. Et puis en plus, elle était très affectée par le fait de ne plus avoir de nouvelles de son fils. Et lui, il n'avait absolument aucune connexion ici, parce que c'est vrai que quand on habite Paris, on a toujours l'impression qu'on connaît quelqu'un.
Oui, c'est ça.
Mais lui, il connaissait absolument personne dans la ville. Quoi.
Parce que lui était marin-pêcheur, c'est bien ça, en Bretagne.
Oui, 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 c'est ça. Ouais. Je ne veux pas dire plus de choses sur lui, parce que je n'ai pas envie qu'il, qu'il puisse être reconnu, peut-être qu'il n'a pas envie qu'on sache qui c'était. Mais oui, oui, il était marin, enfin, il est marin. En Bretagne, il revenait de vacances.
En tout cas, restez avec nous, Maxime, parce qu'on va vous retrouver tout à l'heure. On va continuer à parler ensemble avec vous et Fatma Bouvet de la Maison Neuve pour essayer de comprendre comment on peut se défaire de ces préjugés. Comment vous avez fait vous-même ?
Europe 1. Vous écoutez Europe 1, Ève Roger est avec nous jusqu'à 16h et on parle préjugés. Si vous aussi vous avez été victime de postulats non vérifiés et même de discrimination, venez nous apporter votre témoignage au standard Europe 1 en appelant le 3921. Avec Amir et son titre J'ai cherché, un garçon qui s'entraîne pour danser, devenir danseur étoile et une fille qui pratique le taekwondo. Mais où est le problème du moment qu'on
Alto
trouve sa
cliché.
Voix
Pour conclure cette émission, nous retrouvons Maxime. Maxime, vous avez raconté que vous aviez dépassé vos préjugés pour aller à la rencontre d'un SDF, un homme qui n'était justement pas SDF et que la canicule avait transformé en SDF. Il avait juste besoin d'un billet de train pour rentrer chez lui. Alors Maxime, vous avez posté votre histoire sur Facebook, c'est comme ça que je l'ai connu, pour justement aider les autres à se défaire de leurs préjugés, c'est ça ?
Oui, absolument. En fait, j'ai hésité à poster cette histoire parce que vous savez, quand on poste une histoire comme ça, on a peur que les gens disent « Oh, il se la pète, il a raconté ça pour montrer qu'il va aider les autres, etc. Ouais. » Et moi, j'ai bien dit sur ce post Facebook, vous savez, parfois on peut liker, on peut mettre un petit pouce. J'ai dit « Je veux pas de pouce. En fait, je veux juste que cette histoire, elle permette à des gens comme moi de se dire « Voilà, je ne vais pas spontanément voir les personnes dans la rue. » Parce que là, on a parlé de ce monsieur. Il faut bien comprendre que c'est un cas très, très, très exceptionnel. La plupart des gens dans la rue, elles parlent mal français parce qu'elles sont étrangères. Ou alors elles sont alcoolisées, on en a parlé, ou elles sont sous l'emprise de drogue. Et là, ça nous fait peur, à nous. Mais en fait, il faut apprendre à dépasser cette peur. Il faut, parce que nous, on est dans une espèce de confort quotidien, ça nous prend quoi, 20 secondes. On peut regarder cette personne, lui parler, pas forcément lui donner de l'argent d'ailleurs, parce que c'est pas forcément ce qui va lui faire le plus de bien tout de suite, mais essayer de comprendre si on peut l'aider d'une manière ou d'une autre, juste comprendre son histoire, ça va pas nous transformer. Je pense que l'obstacle principal, c'est que ça nous angoisse en fait.
Et Maxime,
pour être à sa place.
Oui, est-ce que depuis, vous faites autrement, vous avez le sentiment d'avoir un peu changé ?
Alors, après cette histoire, je suis parti tout de suite en vacances. Ouais. Et c'est vrai que c'est assez fou parce que quand on part de Paris, on se rend compte à quel point la vie est très différente ailleurs. Quand on est dans une autre région, en fait, on ne voit plus du tout de personnes dans la rue, ou très peu. Enfin, en tout cas, j'en ai pas encore vu. Mais
donc, travaux pratiques à la rentrée.
Vraiment, ouais, vraiment. je sais que je sens que ça va changer quelque chose.
Je m'adresse à vous maintenant, Fatma Bouvet de la Maison Neuve. Je rappelle que vous êtes psychiatre. Vous êtes autrice du livre Une arabe en France aux éditions Odile Jacob. Alors, on a entendu Maxime a pu se défaire de ses préjugés pour aller aider cet homme. On ne sait pas très bien comment, quel a été le déclic. C'est la bonne méthode pour vous d'aller à la rencontre de celui qui est différent ?
Oui, je pense que Maxime a tout dit à un moment dans une phrase tout à fait juste en disant, en mettant en avant notre caractère d'humain. Qu'est-ce que c'est qu'un humain ? C'est un individu qui est capable de dialoguer, qui est capable d'échanger, qui est capable de se reconnaître dans l'autre. Et pour aller un petit peu plus loin dans la réflexion, c'est cette capacité d'empathie que nous n'avons malheureusement plus aussi développée que nous l'avions avant. Vous connaissez cette expression « moi c'est l'autre ». Il faudrait effectivement se souvenir un petit peu plus souvent dans des situations de difficulté, dans des situations comme ça où la personne semble en souffrance, ce que profondément nous aurions fait si on était à sa place. Je pense par exemple à certaines patientes aux patients que je reçois qui ont toujours été homophobes. Je pense que c'est important de parler aussi de homophobie et qui, un jour, on l'annonce, le coming out d'un de leurs enfants. Oui. Et évidemment, ça change absolument leur point de vue sur la chose, puisqu'aujourd'hui, on ne met plus, j'espère, on met de moins en moins à la porte un enfant homosexuel. Et puis on apprend, donc les choses s'apprennent. Et c'est la raison pour laquelle je pense que Le dialogue est essentiel et nous vivons quand même dans une société, plus les sociétés sont riches et moins les relations humaines sont faciles et moins l'interrogation sur ce que l'on est, sur notre vie est présente. Et ce que je fais, c'est que je dis à mes patients qui sont aussi un certain nombre d'entre eux ou même autour de moi, vous savez, les certitudes, ça enferme, ça rend aigri. Tous ces gens que vous rencontrez qui sont riches, qui sont aigris, sont truffés, confits de préjugés. Ils vous disent « Ah, mais de toute façon, tout le monde le dit.
Ouais. »
C'est parce qu'ils n'ont pas cherché à aller vers l'autre, c'est parce qu'ils n'ont pas cherché à s'ouvrir. Alors, l'ouverture, on s'en rend compte. Regardez Maxime, regardez avec ce que racontent vos témoins aujourd'hui, plus personne n'aura de préjugés sur les gardes forestiers. Moi, j'adore les gardes forestiers. C'est des grands créatifs, il faut le savoir. Donc,
pour se défaire de ces préjugés, il faut y trouver un avantage. Et c'est quoi l'avantage de ne plus avoir de préjugés? Parce que je l'ai dit au début, ça rassure d'en avoir.
Oui, mais c'est cette capacité d'introspection qui fait de nous des humains. C'est cette capacité de se remettre en question, d'avoir des doutes, d'aller chercher. On s'en rend compte au fur et à mesure que quand on va vers l'autre, quand on apprend de l'autre, on grandit, on se nourrit et on se fabrique autrement et ça nous change. La rencontre forcément avec un autre différent vous change.
Ouais.
Il faut avoir une réflexion profonde, effectivement, mais ça ne relève pas forcément des gens qui sont particulièrement intelligents.
Ouais.
Vous avez des gens qui ont fait Polytechnique et qui sont truffés de certitudes. Mais voilà, je pense qu'on grandit et je pense que penser, s'interroger, ça sauve des vies, ça rend plus heureux, ça n'empêche absolument pas d'avoir une opinion.
Ouais.
Mais il faudrait que l'opinion se forge à partir du moment où on a connu l'autre.
Oui,
je reviens
c'est ce
à
qu'on
ce
a
que
dit.
Disait Ilir. Oui, c'est toutes ces idées de machisme, etc., qu'on a sur les hommes du Sud, c'est terrifiant. Moi, un jour, j'ai un patient qui m'a dit, après les attentats, aujourd'hui, je n'embaucherai plus un homme arabe. Parce qu'ils me font peur.
Donc
on a engagé la discussion là-dessus. Et donc j'ai essayé de démonter ce préjugé.
Ça prend un temps fou aussi de démonter les préjugés, Fatma Bouvet de la Maison
Neuve. J'ai un métier de parole. J'ai un métier où le matériau et l'émotion, la pensée, la parole. Et je suis une accoucheuse, d'une certaine façon, de parole et d'émotion. Et j'essaye de les transformer en des vécus positifs pour l'humain. Parce
c'est par cette note positive, hein, parce que c'est très positif. Et puis ça nous a donné du courage pour essayer de se défaire de tous nos préjugés. Merci beaucoup d'abord à Maxime de nous avoir fait partager son expérience. Merci à Camille, Idir et Michael de nous avoir raconté ces épisodes de leur vie. Et à vous, Fatma Bouvet de la Maison Neuve, pour votre éclairage si intéressant. Grâce à vous, grâce à tous vos témoignages, nous avons compris que nous avions tous des préjugés, des opinions préconçues qui nous viennent de loin, de notre éducation, de notre milieu social. On en est imprégné depuis l'enfance, mais on a compris aussi qu'il était temps d'essayer de s'en défaire, d'abord en allant au contact de celui ou celle qui nous est étranger, discuter, échanger pour faire tomber les fausses idées, puis en travaillant. Le savoir et les connaissances sont les meilleurs moyens de lutter contre les préjugés. Se renseigner, enquêter, lire pour tordre le cou aux idées reçues et en faire profiter notre entourage et nos amis. On gagnera ainsi en liberté et notre terrain de jeu ne pourra que s'agrandir et s'enrichir de nouvelles rencontres.
Vous pouvez continuer à en discuter sur les réseaux sociaux comme le groupe de l'émission partageant nos expériences de vie sur la page Facebook d'Europe 1.
Europe 1. Demain, nous nous demanderons comment faire un bébé toute seule quand on est une femme, comment l'élever ensuite. Alors si vous avez eu un enfant seul par PMA à l'étranger ou grâce à un ami, si vous avez adopté un enfant seul, si vous songez à devenir maman solo en attendant que la loi soit votée ou si vous craignez d'être obligée de faire un bébé toute seule parce que l'horloge biologique tourne, appelez-nous au 3921 pour témoigner, nous attendons vos appels. Merci à Benjamin Lévesque pour la préparation sans préjugés de cette émission, enfin presque. Merci à Boris Paczynski à la réalisation et merci à vous Johanna.
Et merci Eve de ne pas avoir eu non plus de préjugés avec une petite nouvelle dans l'équipe.
Avec une nouvelle blonde. Je vous laisse maintenant pour 2 heures de musique en compagnie de Karima Charny.
Bonjour une brune. Karima. Une brune. Bonjour Eve, bonjour Johanna, bonjour à tous.
Alors votre invité aujourd'hui c'est Sylvane Aregg, mais Qui est cet homme ?
Alors, c'est un artiste qu'il me tarde de vous faire découvrir parce qu'il a un parcours assez particulier. Il est passé par la... Il était prof au début, puis ensuite, il est parti dans des groupes de rap et maintenant, il fait de la très très jolie variété, de la très très belle chanson française. Il me tarde vraiment de vous le faire découvrir et bien entendu, dans musique, les auditeurs restent les programmateurs de l'émission. Donc, chacun d'entre eux peut passer et programmer sa chanson préférée. C'est ce qui va se passer jusqu'à 18h en direct dans musique.
Eh bien, je vous souhaite une très bonne émission,
merci
Karima,
beaucoup.
Et je vous dis à demain.